Artisan de paix. Artisan de paix, une réflexion autour de la non-violence, guidée par Yves Ardourel.
Dans son édition du 18 janvier, le journal La Croix propose un long article sur les mouvements de paix en Israël. Seule la paix apportera la sécurité. C'est sous ce slogan que 23 organisations manifestent à Tel Aviv. Deux mouvements sont à l'initiative, Women Wage Peace, femmes qui œuvrent pour la paix, et Standing Together, debout ensemble. Le premier est le plus gros mouvement de paix du pays, fondé en 2014 par un groupe de femmes convaincues. Le groupe compte aujourd'hui 55 000 membres, issus de tous les courants politiques, de toutes les classes sociales et de toutes les régions du pays. Le mouvement Standing Together, fondé lui en 2015, a le vent en poupe. L'organisation mobilise des citoyens juifs et palestiniens d'Israël. Son slogan « Ensemble, nous surmonterons des épreuves ». Dans ce pays, il y a deux nations. La sécurité des deux peuples ne peut passer que par un accord de paix israélo-palestinien, pas par la guerre, défend Rula Daoud, qui co-dirige le mouvement. Et dans la même édition du journal, Laura Mose Lustiger, avocate et romancière franco-israélienne, petite nièce du cardinal Lustiger, nous livre une tribune bouleversante. La souffrance israélienne me rendait aveugle à celle des Palestiniens. Oui, comment dépasser la haine, l'esprit de vengeance et comprendre la nécessité de désarmer ce conflit, à lire et à relire. Françoise Laborde, bonjour.
Bonjour.
Nous arrivons au terme de notre quatrième émission sur le CCFD Terre Solidaire. Et on va aborder la quatrième axe du CCFD, justice économique. Ça recouvre quoi ?
Eh bien, ça recouvre la lutte pour le bien commun, si on peut traduire en langage un peu catho. Ça veut dire que le partage des richesses dans ce monde n'est loin d'être parfait, que donc les droits humains de cette manière ne sont pas respectés, et donc on plaide pour des politiques différentes, le respect des richesses de chaque pays et en même temps de l'environnement. Tout ça fait partie un petit peu de la justice économique.
C'est donc très, très, très ambitieux.
C'est vaste. C'est ambitieux et vaste.
S'attaquer aux inégalités, c'est...
Voilà. Alors, comment on fait? Alors, bon, il y a eu la première action, ça a été ce dont on parlait dans une autre émission, c'est-à-dire la lutte contre la dette des pays du Sud, qui est de plus en plus considérée comme une dette injuste et qu'il faut effacer pour un grand nombre parce qu'elle pèse complètement sur leur économie, elle empêche leur développement parce que pour rembourser la dette, on ne peut pas construire des écoles, des routes et la population en souffre. Alors ensuite, il y a eu un énorme travail du CCFD dans les années, il y a 10 ans, 15 ans, sur la question des paradis fiscaux. Une grande sensibilisation à cette question parce que les pays du Sud, la France bien sûr en souffre, mais les pays du Sud perdent des milliards chaque année parce que cet argent n'est pas, les entreprises ne paient pas les impôts qu'elles ont, les sommes sont volées quoi, aux États du Sud alors qu'ils devraient en bénéficier. L'argent s'évade dans des paradis fiscaux et les caisses des pays sont vides pour financer leurs propres projets.
Donc ça, c'est avec les moyens du plaidoyer, comme vous expliquez.
Voilà, tout à fait. Moi, je me souviens...
Plaidoyer auprès des institutions françaises,
oui, européennes,
ONU aussi.
Alors, ONU, il y a certaines choses qui rejoignent maintenant l'ONU. J'en parlais dans le troisième direction. Oui, ça peut aller jusque-là. Je me souviens de... On a participé à un alter-sommet du G20 à Nice. C'était à Cannes il y a quelques années. Et je nous revois faire des manifestations dans les rues de Nice avec le président Guy Orange. C'est Guy Orange à ce moment-là. Faire un AK. Enfin bon, vous voyez, ça c'est le plaidoyer visible. Et puis après, il y a le plaidoyer par des textes. texte, des amendements qu'on propose aux députés, pour que les choses évoluent. Donc, on a lutté pendant des années là-dessus et il y a eu, en collaboration là aussi avec beaucoup d'autres ONG, il y a eu des avancées par rapport à ces paradis fiscaux, mais c'est toujours pas ça. Voilà. On calcule, oui, que ça fait à peu près 180 milliards d'euros que les pays du Sud perdent en recettes fiscales chaque année avec ce système. Et ce qui est terrible, c'est qu'à chaque fois qu'on déjoue une façon de faire de l'évasion fiscale, ils en inventent une autre. Alors, voilà. Et le troisième champ pour cette justice économique, c'est la lutte contre l'impunité des multinationales. Et là, on a obtenu quand même une grande victoire avec d'autres ONG aussi, là aussi Amnesty, Action Aid, voilà, enfin un certain nombre d'ONG, pour obtenir une loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères par rapport à leurs filiales. Parce que les grandes entreprises multinationales, elles ont une charte éthique, et elle est belle, et elle est respectée sans doute en France, mais elle ne l'est pas du tout. Dans la filiale de la filiale au Bangladesh, on se souvient de l'écroulement du Rana Plaza qui a tué 1100 ouvrières. Bon, donc on a retrouvé les étiquettes des marques françaises qui produisaient là-bas. Et il y a eu quelques petites améliorations de salaire, de conditions de travail, mais c'est très timide et il y a plutôt un recul actuellement. Donc, il y a encore un gros travail à faire. Donc là, il y a une loi française qui a été votée il y a quelques années. Et il y a maintenant un projet de loi au niveau du Parlement européen dans le même sens. Et l'ONU aussi, à la demande d'un pays du Sud, a quelque chose en route sur cette question du devoir de vigilance pour essayer de faire la justice jusqu'en bas. Hein. Et puis c'est lié aussi à l'environnement parce que la façon dont les entreprises travaillent dans les pays du Sud entraîne des conséquences sur la vie des populations, les droits humains et le climat aussi, la pollution, l'utilisation d'engrais, de pesticides, voilà.
Et donc toujours en relation avec d'autres acteurs, hein, vous l'avez dit plusieurs fois. Oui. Comment ça se passe, ces relations entre les acteurs? Comment on se retrouve, il y a des séminaires,
il y a des lieux de coordination. Le CCFD appartient à plusieurs coordinations, la coordination sud, il y en a une autre aussi qui est plus catho dont j'oublie le nom à ce moment. Mais non, effectivement, on travaille en collaboration et quand il y a une campagne précise, les chargés de mission se rencontrent, se retrouvent.
C'est une équipe importante de chargés de mission, donc.
Alors oui, il y a à peu près 150 permanents au CCFD, donc beaucoup pour ces projets internationaux, d'autres pour une thématique, et puis alors après on a un accompagnement en région, mais bon, des régions assez larges, ils se déplacent beaucoup, les pauvres, et on est accompagné par. En général, ce sont des jeunes dynamiques et sympathiques.
Et après, il y a les relais locaux.
Les relais, ce qu'on appelait le comité diocésain, l'équipe d'animation diocésaine. Et puis après...
Dans chaque diocèse, à peu près, il y a une équipe.
Oui, alors il y a des diocèses qui sont un petit peu plus vacillants dans notre région. Il y en a un qui n'a plus beaucoup d'équipes. Et puis, bon, on essaie de relancer.
Et qui sont donc s'appuient sur le travail des équipes permanentes, là.
C'est ça.
Qui relaient,
oui,
oh,
mais
qui
c'est reprennent. Que les permanents, ils veulent surtout que nous travaillions. Ils appuient, mais c'est à nous de faire. Ils ne prennent pas la parole, c'est à nous de parler et de faire. C'est un peu le même principe. On n'assiste pas, les militants doivent faire. Voilà, on les respecte dans leur capacité, bon, puis il faut qu'ils se bougent.
Le respect comme base de... Voilà. De travail. Et tout ceci, c'est bien sûr au service de la lutte contre la faim, puisque c'était au départ, c'est l'axe fondamental du CCFD.
Tout à fait. On se recentre d'ailleurs sur cette thématique-là, c'est la racine du CCFD.
Donc pour terminer, où on en est sur la sécurité alimentaire dans le monde?
Alors actuellement, pour 2020, les chiffres étaient de 770 millions de personnes qui souffrent de la faim. 2,4 milliards qui souffrent d'insécurité alimentaire. Il y a eu une augmentation énorme suite au Covid, parce que, évidemment, les populations n'ont pas eu accès à ce qu'il leur fallait. Et puis, la guerre en Ukraine a encore aggravé les choses, parce que l'Ukraine fournissait beaucoup de choses alimentaires dans les pays du Sud. Et puis, ça fait monter les prix des matières premières ou de... Bon, donc là, la situation qui s'était un peu améliorée avec les objectifs du millénaire pour le développement s'est à nouveau beaucoup aggravée. Le changement climatique n'améliore pas les choses, donc c'est très inquiétant parce qu'on se dit que d'ici quelques années, ça va encore monter de manière drastique. La question de la faim ne diminue pas. Et elle augmente aussi dans nos pays européens, alors qu'avant, on n'avait pas de faim. En France, on disait ça n'existe pas, mais maintenant, ça peut exister. Demandons au Secours catholique et aux autres ONG.
Et sur cette question-là, quel est l'axe, quel est le levier?
On n'agit pas directement en France, on n'a pas de partenaire en France, sauf ceux sur les migrations, mais on essaie de sensibiliser à cette question de la faim, parce que tout est lié, l'économie, tout est en lien, donc on agit un peu sur ce biais-là.
Bien, alors merci, on a parcouru les missions... et les actions, je pense qu'on a compris l'importance et le rôle du CCFD, Terre Solidaire, à travers paix et vivre ensemble, souveraineté alimentaire, immigration internationale, et justice économique.
Oui.
Merci, on espère vous retrouver bientôt.
Volontiers.
Et merci pour avoir partagé cette réflexion pour l'émission. Une seule fois, le prix Nobel de la paix a été attribué à titre posthume. C'était en 1961 à un diplomate suédois, Dag Hammars Kold, mort dans un crash aérien le 18 septembre 1961. Ce diplomate cherchait à protéger la République démocratique du Congo, nouvellement indépendante, des ingérences de mercenaires blancs recrutés par des sociétés minières pour déstabiliser le pays. La crise congolaise associe crise gouvernementale et guerre civile. Elle fait partie des nombreuses guerres par procuration de la guerre froide. Dag était secrétaire général des Nations Unies depuis 1953. Dès le début de son mandat, il cherche à renforcer la capacité d'action de l'ONU. Il recrute massivement des collaborateurs, créant une véritable fonction publique internationale onusienne. Alors que Dag Hammars Kold se rend le 18 septembre en Rhodésie du Nord pour participer à des accords pour un cessez-le-feu, son avion s'écrase dans la forêt équatoriale. Ce crash est officiellement un accident, cette version est contestée, et l'ONU a reconnu en 2017 qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'un assassinat. L'engagement pour la paix n'est pas un long fleuve tranquille. Dag est mort, c'est le sacrifice d'un homme pour les valeurs que porte avec difficulté l'ONU, valeurs que trop d'États bafouent actuellement. À la semaine prochaine.